Les preuves du lien corps-esprit. Pour un esprit rationaliste, ces résultats ne sont pas faciles à accepter. Michael Lerner raconte qu'un grand chercheur universitaire spécialisé dans le lien entre stress et cancer avait, dans les années 80, présenté à ses confrères médecins une étude montrant un effet indiscutable des facteurs psychologiques sur la progression du cancer. Au bout de quelques minutes, un chirurgien assez irascible du même hôpital avait explosé. « Vous ne croyez tout de même pas à toutes ces conneries ?» Il est vrai qu'à l'époque, on ne comprenait pas du tout comment les facteurs purement psychiques pouvaient avoir le moindre impact sur la biologie du corps et par conséquent sur la maladie. Comment le fait de se sentir impuissant, le fait de ne jamais exprimer ses émotions, de ne presque jamais goûter à un calme intérieur profond, pouvait-il accélérer la croissance d'une tumeur ou réduire les bienfaits d'une chimiothérapie? C'est un psychiatre de l'université de Stanford qui, presque malgré lui, bouleversa les idées reçues sur le rapport entre stress et chances de survie dans les cancers les plus graves. Le docteur David Spiegel avait commencé par étudier la philosophie à l'université de Yale. Passionné par la pensée de Kierkegaard et de Sartre, il y avait trouvé une idée clé qui l'avait guidé tout au long de sa carrière. Pour être pleinement humain, nous devons être dans une relation à autrui la plus authentique possible. Pour cela, il nous faut dépasser l'image que nous avons de nous-mêmes et celle que nous nous faisons des autres. Nous devons savoir, au plus profond de nous, que nous sommes intrinsèquement libres de nous reconstruire, de nous transformer et apprendre à accorder aux autres ce même pouvoir. Après des études de médecine et de psychiatrie à Harvard, David Spiegel consacra ses recherches aux conditions qui permettaient de réaliser cette puissante authenticité de l'être et l'ouverture à autrui. Il croyait fermement, comme Sartre, que c'est en faisant face à l'angoisse de la mort que l'être humain devient pleinement lui-même. Tout jeune psychiatre, il décida de rejoindre le grand psychothérapeute Irving Yalom à l'université de Stanford pour tester cette idée. Ensemble, ils animèrent chaque semaine des groupes de femmes gravement malades auxquelles on ne donnait que quelques années ou quelques mois à vivre. Si leurs hypothèses sont correctes, ces femmes étaient les mieux placées pour apprendre à devenir pleinement elles-mêmes. Dans ces groupes, 8 à 10 femmes souffrant d'un cancer du sein métastatique parlaient chaque semaine de leur peur, de leur solitude, de leur colère, de leurs envies aussi, et de leur façon de faire face à la maladie. Elles apprenaient très vite une des leçons les plus essentielles de la vie. Nous sommes tous blessés, peu ou prou, et nous avons tous appris à en avoir honte. Dans ces groupes, tout le monde était gravement atteint par la maladie. Il n'y avait plus rien à cacher. Ces femmes pouvaient s'ouvrir en confiance à l'échange intime. Pour certaines, c'était la première fois de leur vie qu'elles goûtaient à la douceur de cette confiance. Tout naturellement, quelque chose d'un peu miraculeux se produisait alors. Le plus souvent, ces réunions n'étaient ni tragiques ni pathétiques. Au contraire, on y riait beaucoup. Comme si le simple fait d'être accepté avec ses blessures ouvrait aussi la voie aux émotions positives, à la joie, à l'envie d'être en vie, au plaisir d'être ensemble, ici et maintenant. Il arrivait bien sûr que l'une d'elles soit emportée par la maladie. Les femmes parlaient alors de tout ce qu'elles avaient perdu avec le départ de cet ami, de son rire profond quand elle évoquait les bourdes de son mari, de ses yeux si attentifs quand elle écoutait une autre raconter les difficultés de sa dernière opération, ou de la grâce avec laquelle elle se tenait toujours, même quand elle souffrait. Elle s'autorisait à sentir toute la tristesse de cette perte. Ces moments-là étaient très durs, mais chacune sentait que l'absente continuerait de vivre dans leur cœur à toutes, à travers ses souvenirs. En filigrane, elle sentait que lorsque leur tour viendrait, elles aussi seraient honorées par cette remémoration et qu'elles ne cesseraient d'habiter le cœur de leur compagne. Une de ses patientes, Émilie, décrivait ainsi l'expérience de la confrontation avec la mort. « Ce que j'ai découvert dans le groupe, c'est un peu la même peur que quand on se penche du haut d'un gratte-ciel ou du Grand Canyon. Au début, on n'ose même pas regarder en bas, j'ai facilement le vertige, mais graduellement, on apprend à le faire et on voit que ce serait une catastrophe de tomber. » On se sent tout de même plus fort parce qu'on a été capable de regarder. C'est ce que je ressens lorsque nous parlons de la mort dans le groupe. Je suis capable de regarder maintenant. Je ne peux pas dire que je me sente sereine, mais je peux la regarder. Un an durant, les femmes se réunissaient régulièrement, puis chacune reprenait son chemin. David Spiegel compara d'abord l'état psychologique des participantes avec celui de patientes caractérisées par les mêmes diagnostics et recevant les mêmes traitements médicaux. Les femmes qui avaient appris, grâce au groupe de soutien, à faire face à leurs peurs, à exprimer leurs émotions intimes et à vivre les relations de façon plus authentique, étaient moins sujettes à la dépression, à l'anxiété et même à la douleur physique. Une fois libérées de leur sentiment d'impuissance, tout leur état émotionnel s'améliorait. C'est exactement ce à quoi David Spiegel s'attendait. Mais il n'aurait jamais osé imaginer un effet possible sur l'évolution de la maladie, et encore moins sur les chances de survie. Spiegel était même persuadé du contraire, qu'il n'y avait aucun lien entre l'état mental et la progression du cancer. Il était très remonté contre ceux qui attribuaient le cancer à des conflits psychiques, parce qu'il donnait aux malades le sentiment pénible que c'était en partie leur faute. Pour prouver une fois pour toutes qu'ils avaient tort, il cherchait à montrer que les femmes qui avaient participé au groupe de soutien et dont le mental s'était nettement amélioré n'avaient pas vécu plus longtemps que celles du groupe témoin. Mais en épluchant les dossiers, une surprise majeure l'attendait. D'abord, quand il appela les familles, 3 des participantes sur 50 répondirent elles-mêmes au téléphone, 10 ans après l'annonce de leur maladie. Étant donné la gravité de leur état, c'était tout simplement incroyable. Pas une seule des femmes du groupe témoin, 36, n'avait survécu si longtemps. Ensuite, en questionnant les familles sur la durée de la survie de ces personnes, il dut constater que les femmes du groupe de soutien avaient survécu 2 fois plus longtemps que les autres. On pouvait même noter une différence entre celles qui étaient venues régulièrement et celles qui n'avaient participé que de façon épisodique. Plus elles avaient été assidues, plus longtemps elles avaient vécu. Publiés à grand bruit dans le Lancet, ces résultats prirent à contre-pied tout l'establishment médical mondial. Le docteur Troy Thompson, professeur de psychiatrie au Jefferson Medical College de Philadelphie, résume ainsi l'état d'esprit qui régnait à l'époque. « J'aurais parié le montant de mon emprunt immobilier qu'on n'obtiendrait jamais ce type de résultat. » Grâce à cette étude, le lien entre l'état mental et l'évolution de la maladie passa soudain du statut de concept New Age un peu farfelu à celui d'une hypothèse scientifique parfaitement respectable. David Spiegel est aujourd'hui directeur associé du département de psychiatrie de l'université de Stanford et un des psychiatres universitaires les plus reconnus aux États-Unis. Quand on lui demandait il y a 15 ans d'expliquer en termes simples ce résultat si surprenant au premier abord, il répondait « Les sentiments et les émotions que l'on n'exprime pas deviennent un obstacle intérieur. En nous évertuant à les maintenir en dehors de notre conscience, nous démultiplions souvent le stress qui leur a donné naissance et nous puisons dans certaines ressources psychiques qui sont encore très mal connues. Le fait de les accepter et de les exprimer permet de ne plus gaspiller ces ressources. Comment cela se traduit-il dans la façon dont le corps se bat contre la maladie? C'est encore un mystère. Mais j'ai acquis la conviction que c'est bien ainsi que les choses se passent et nous commençons à comprendre les mécanismes. » Depuis, plusieurs autres études ont évalué cette hypothèse. 4 ont trouvé des résultats comparables à ceux de Stanford. 6 n'ont pas noté d'effet. Mais pour 3 de celles-ci, il n'y avait pas d'amélioration psychologique des patients. On ne pouvait donc pas s'attendre à ce qu'il y ait un effet sur la survie. Au total, il y a donc 5 études qui ont observé une amélioration de la survie et 3 qui n'ont pas trouvé d'effet. Dans une réitération récente de son étude sur 125 patientes, David Spiegel et son équipe de recherche ont observé un triplement du temps de survie des femmes participant au groupe, mais seulement chez celles qui avaient un cancer négatif pour les récepteurs aux œstrogènes. Celles qui recevaient du tamoxifène ou un autre antagoniste des œstrogènes ne montraient pas d'augmentation de la survie liée à la participation au groupe, comme si ces médicaments leur avaient déjà conféré la protection qu'on pouvait attendre du traitement psychologique. Les antagonistes aux récepteurs à œstrogènes n'existaient pas au moment de l'étude publiée en 1989. Il est important aussi de noter qu'aucune étude n'a rapporté la possibilité d'un effet négatif d'une intervention psychologique. Le cerveau circulant de la psychoneuro-immunologie. Aujourd'hui, on comprend beaucoup mieux comment la biologie du stress peut peser sur l'évolution du cancer. Nous savons que le stress déclenche la libération d'hormones qui activent les fonctions d'urgence de l'organisme, comme les mécanismes de l'inflammation, et facilite ainsi la progression des tumeurs. Parallèlement, le stress met en veilleuse toutes les fonctions qui peuvent attendre, comme la digestion, la réparation des tissus et, on le sait aujourd'hui, le système immunitaire. Depuis une vingtaine d'années, un nouveau domaine scientifique est apparu qui étudie explicitement le lien entre les facteurs psychologiques et l'activité du système immunitaire. Il s'agit de la psychoneuro-immunologie. Détaillons les trois dimensions qui composent cette nouvelle approche. Lorsque nous avons le sentiment que notre vie n'est plus gérable, ou qu'elle nous apporte plus de souffrance que de joie, c'est l'aspect psycho, notre cerveau libère des hormones du stress, comme la noradrénaline et le cortisol. Celles-ci activent le système nerveux, accélèrent le rythme cardiaque, font monter la tension artérielle, tendent les muscles pour qu'ils soient prêts à l'effort ou à parer les coups, aspect neuro. Or, on sait aujourd'hui que leurs effets se font sentir bien au-delà. Ces mêmes substances chimiques qui activent les réflexes neurologiques et viscéraux du stress agissent aussi sur les cellules du système immunitaire. Les globules blancs ont en effet des récepteurs à leur surface qui détectent ce qui se passe dans le cerveau émotionnel et réagissent en fonction de ces fluctuations. Certaines de ces cellules se mettent à libérer des cytokines et des chémokines inflammatoires. De leur côté, les cellules NK sont bloquées par la noradrénaline et le cortisol. Elles restent passivement collées à la paroi des vaisseaux au lieu d'aller attaquer les virus qui ont pénétré l'organisme ou les cellules cancéreuses qui prolifèrent à proximité. C'est le volet immunologie de cette nouvelle science. Le professeur Candace Pert, qui dirigea la section de biochimie du cerveau au National Institute of Mental Health, fut une des premières à identifier le lien entre les substances chimiques du cerveau émotionnel, les neuropeptides, et l'activité du système immunitaire. Elle alla même beaucoup plus loin, en réussissant à montrer que les cellules du système immunitaire, à leur tour, envoient constamment des messages chimiques vers le cerveau émotionnel. Les neurosciences modernes définissent la pensée, ou l'esprit, comme le résultat des interactions entre les cellules qui échangent de l'information. Jusqu'aux travaux de Candace Pert, on avait toujours pensé qu'il s'agissait uniquement des neurones du cerveau et que l'esprit résidait dans la boîte crânienne. Ces découvertes nous obligent à admettre l'idée que l'esprit souffle aussi dans le système immunitaire. Dans le livre qui raconte sa découverte, elle explique qu'elle a dû conclure, à rebours de tout ce qu'elle pensait jusqu'alors, que les interactions multiples entre les molécules des émotions et le système immunitaire constituent un cerveau circulant. Mais comment ce cerveau circulant se manifeste-t-il dans le cancer? Le désir de vivre et les cellules immunitaires. Nous avons vu dans le chapitre 4 consacré aux faiblesses du cancer que les souris descendantes de Mighty Mouse, capables de mobiliser totalement leurs cellules immunitaires, sont résistantes au cancer, y compris lorsqu'on leur injecte des doses massives de cellules parmi les plus agressives. Dans le même esprit, au National Cancer Institute, le laboratoire du professeur Ron Eberman, qui dirige maintenant l'Institut de cancérologie de l'Université de Pittsburgh, a montré chez des femmes ayant été opérées d'un cancer du sein que plus les cellules NK sont actives dans les semaines qui suivent l'opération, meilleures sont les chances de survie à long terme. Près de Washington, dans son laboratoire voisin de celui de Candace Pert, au National Cancer Institute, le même Ron Eberman avait aussi montré que parmi les femmes souffrant d'un cancer du sein, celles qui réussissaient à faire psychologiquement face à la maladie avaient des cellules NK beaucoup plus actives que celles qui sombraient dans la dépression et l'impuissance. En 2005, le docteur Suzanne Ludgendorff, à l'université de l'Iowa, a confirmé ces résultats chez des femmes souffrant d'un cancer des ovaires. Celles qui se sentaient entourées et soutenues, qui gardaient le moral, avaient des cellules NK plus combatives que celles qui se sentaient seules ou abandonnées et émotionnellement perturbées. Tout se passe comme si les globules blancs du système immunitaire, comme les cellules NK et les lymphocytes T et B, étaient sensibles au sentiment d'impuissance et à la perte du désir de vivre qui en découle. Chez les rats de Martin Seligman, soumis à des chocs électriques qu'ils ne peuvent esquiver, l'impuissance se manifeste par des symptômes très proches de ceux qu'on observe chez les humains traumatisés. Ils semblent avoir perdu toute confiance en eux et restent inertes face à toutes les autres situations difficiles. En situation de compétition, ils se montrent soumis et passifs, ne se défendant même plus lorsqu'ils sont agressés. C'est précisément dans ces circonstances que leur système immunitaire, lui aussi, baisse les bras. Tout se passe comme si l'état émotionnel qu'on peut observer de l'extérieur à travers le comportement de l'individu se reflétait à l'identique dans le comportement interne des cellules immunitaires. Quand le rat ou la personne abandonne, avec le sentiment que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue, le système immunitaire rend les armes lui aussi. Comme l'a si bien décrit Candace Pert, ce sont deux aspects du même cerveau. À l'inverse, trouver en soi le désir de vivre signale un tournant décisif dans le cours de la maladie. Hélène avait 52 ans quand elle apprit qu'elle souffrait d'un lymphome très grave. Les 6 chimiothérapies de rigueur n'avaient pas donné d'effet satisfaisant. Et 2 traitements supplémentaires n'avaient fait qu'augmenter la virulence des cellules cancéreuses. Le seul espoir qui restait était le recours à une intervention particulièrement dangereuse, l'autogreffe de moelle, qui fait appel à des substances chimiques si toxiques qu'elles entraînent la destruction totale du système immunitaire. Hélène avait dû passer 3 semaines en chambre d'isolation complète. Ses visiteurs n'y entraient qu'après une stricte procédure de stérilisation, corsetée dans une tenue qui leur donnait l'allure d'astronautes. Hélène avait le sentiment pénible qu'elle ne vivait plus sur la même planète que ses étranges visiteurs et qu'elle n'y reviendrait peut-être jamais. Au bout des 3 semaines, son état s'était tellement dégradé qu'elle n'avait pas pu sortir de l'isolement. En la voyant si maigre et fragile, ses visiteurs se demandaient s'ils ne la rencontraient pas pour la dernière fois. Et ils ne pouvaient ni l'embrasser, ni lui prendre la main, ni même lui sourire, puisque leur visage était caché par un masque stérile. Mais au moment où l'espoir ne tenait plus qu'à un fil, où son corps semblait sur le point de lâcher, Hélène s'accrocha à la seule chose qui avait toujours été là, comme un chien fidèle et affectueux, la sensation de son souffle dans sa poitrine. La signature même de la vie qui perdurait, malgré les doutes, les peurs, la nausée, malgré la douleur aussi. Accrochée à sa respiration, un souffle après l'autre, elle se connectait au fond d'elle-même à cette envie de vivre qui venait de chaque cellule et qui la reliait à tout ce qui était vivant autour d'elle. L'arbre et ses feuilles, qu'elle pouvait voir par la fenêtre, les rires et les pleurs des enfants qui passaient dans le couloir, les étoiles parfois, à la nuit tombée. Elle en retirait un sentiment étrange de paix, comme si rien ne pouvait vraiment l'affecter, puisque, quoi qu'il dût arriver, la vie qui passait au travers d'elle continuerait. Aujourd'hui, 12 ans plus tard, elle a repris son travail et vit normalement. Elle s'émerveille encore de la force que lui a donnée cette connexion profonde, quasi animale, à l'élan vital qui nous unit tous. Les chamans et le désir de vivre. Dans toutes les cultures et à toutes les époques, jusqu'au début de l'ère moderne, l'art qui consiste à guider les malades vers la santé a été pratiqué par des individus exceptionnels appelés hommes médecine ou chamans. D'un continent à l'autre, comme l'observe Carl Gustav Jung, leurs pratiques sont extraordinairement similaires, comme s'il s'agissait d'un des rares universaux de la culture humaine, au même titre que le tabou de l'inceste. Au cœur de cet enseignement immémorial, on retrouve un principe invariant. Le traitement du patient doit se focaliser moins sur ses symptômes physiques que sur son élan vital. Pour ce faire, chaque tradition chamanique utilise des méthodes particulières visant à libérer le malade des démons qui le menacent. La plupart reposent sur des rituels qui font appel à des forces mystiques transpersonnelles, des esprits, des ancêtres, des animaux totems, etc., afin de permettre à l'âme de celui qui souffre de retrouver son intégrité. S'ils ne croient plus aux démons, les psychothérapeutes qui travaillent aujourd'hui avec des patients souffrant d'un cancer ont compris, eux aussi, l'importance de raviver le désir de vivre chez leurs patients. La première étape consiste en général à retrouver et à guérir les traumatismes du passé dont les blessures mal cicatrisées continuent de drainer la force vitale. Au cours de la deuxième étape, il faut apprendre à chacun à cultiver cette douceur et cette flamme toujours allumée au fond de soi. Il existe bien des façons de cultiver cette force et cette flamme. J'en ai expérimenté certaines qui m'ont inspiré beaucoup de respect et de gratitude. Je voudrais vous parler de celles qui me semblent être les plus importantes.